Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis très heureuse de vous retrouver en ce premier samedi d'automne. Nous sommes de nouveau ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Et je vous rappelle que si vous souhaitez passer à l'antenne, il vous suffit d'appeler le 3921. Hassan et Oscar sont prêts à recevoir vos appels et à vous guider jusqu'à moi. L'automne, ce moment de l'année où la vie change de couleur, où les arbres se détachent de leurs feuilles sans état d'âme, pour se préparer à ce qui vient après. Nous devrions prendre exemple sur la nature. Malheureusement pour nous, le détachement est l'une des choses les plus difficiles qui soient. On résiste souvent parce qu'on a peur de perdre l'objet de notre attachement. On veut que les choses se passent à notre façon, que les autres réagissent comme on veut, que notre vie se déroule comme on l'a programmée. Et pourtant, à chaque fois qu'on résiste, qu'on bloque, on souffre un peu plus. Le détachement, ce n'est pas s'éloigner des autres. Ce n'est pas non plus être indifférent à ce qui arrive quand on attend quelque chose, non. C'est juste rester ouvert à ce qui arrive, peu importe le résultat. C'est accepter de composer avec ce que la vie met sur notre chemin. C'est un grand exercice de confiance, d'ouverture de cœur et d'acceptation. Alors si vous avez besoin de vous détacher, de prendre un recul nécessaire par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, parlons-en, appelez-moi dès maintenant au 3921. Vous savez que vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS en faisant le 73921 en commençant bien par le mot « nuit ». Votre soutien, votre expérience, vos conseils, ils sont les bienvenus. Enfin, celui dont je ne veux surtout pas me détacher, ce soir, c'est Fabrice Fougerousse qui, saison après saison, réalise cette émission avec le même talent.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et mon premier appel ce soir, c'est celui de Ludmila. Bonsoir Ludmila.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup. Merci bien sûr de prendre mon appel et je voulais témoigner par rapport à un drame que j'ai vécu il y a tout juste 4 mois.
Oui.
J'ai perdu mon compagnon. Je l'ai retrouvé en fait décédé un matin au lever. Donc c'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête hein, quand on vit ce type de drame. J'ai eu le sentiment en fait que voilà que tout s'écroulait autour de moi et que je ne m'en sortirais pas.
Il est mort de quoi ?
Il a mis fin à ses jours.
Ah oui, en plus, donc ça c'est encore doublement difficile à appréhender.
Oui, c'était en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris un traitement, il avait un traitement médicamenteux et il a eu un médicament supplémentaire, en fait, qui n'était pas compatible, on va dire. Et qui avait comme effet secondaire un état dépressif et poussé au suicide. Et voilà. Donc, la veille, en fait, il avait passé la journée dans les préparatifs parce qu'il me préparait une surprise. En fait, il était en train de me préparer un anniversaire surprise.
Oui.
Et ben le matin, donc, je me suis réveillée, j'ai été prendre mon petit déjeuner, je le voyais pas, je me demandais où est-ce qu'il était, et puis c'était un samedi matin, il était 8h, 8h30 à peu près, et je suis allée dans le jardin et ben voilà, l'horreur était face à moi, quoi. Il s'est pendu. un arbre dans mon jardin.
Est-ce qu'il avait laissé une explication, une lettre, quelque chose?
Non, rien. Rien, rien. Pas du tout. Donc ça a été vraiment une horreur. Quand vous êtes face à cet événement, vous n'y croyez pas. Le premier réflexe quand même, ça a été d'appeler les pompiers. Enfin, mais en même temps, je savais que c'était trop tard. Je l'avais vu. Je l'avais vu. Là, l'émotion est montée et je me suis mise à hurler de douleur, en fait. Et tous mes voisins, enfin tout le monde est venu tout de suite. Et j'étais encore au téléphone avec le 15 et la personne au 15 me disait « Est-ce que vous pouvez le décrocher ?» Je me disais « Mais non, c'est juste pas possible, c'est pas possible. » J'ai posé les yeux sur lui juste le temps de voir s'il y avait de la vie encore ou pas.
Oui, bien sûr.
J'ai vu qu'il n'y en avait pas, donc après c'était juste insupportable. Et j'ai ouvert ensuite à mes voisins et ils ont pris le relais. Et puis voilà quoi. Ça a été très très compliqué. Le ciel me tombait sur la tête. Je me disais mais comment je vais faire? Je vais pas pouvoir rester dans cette maison. Je vais être dans l'obligation de la vendre. En même temps. C'est juste une vision d'horreur.
Tout se mélange un petit peu dans des moments comme ça.
Oui. Vous avez des idées, mais c'est 100 000 idées à la seconde, j'ai envie de dire. Alors, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait une psychologue qui était par chez moi ce jour-là, par hasard.
Oui.
Et donc les pompiers sont arrivés, le SAMU est arrivé, les gendarmes sont arrivés. Elle est arrivée, elle m'a pris en charge tout de suite. Et puis tout le monde a été vraiment très bien, très très bien. Et puis après j'ai été prise en charge par mes enfants et je suis partie. Je suis partie de la maison. La psychologue m'a laissé sa carte et m'a précisé vous m'appelez quand vous voulez, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, dimanche, jour férié. Enfin, elle était vraiment...
Ça, c'est exceptionnel.
Oui, vraiment, oui. Et donc, sa carte, je l'ai gardée bien précieusement. Puis, je suis allée la voir par la suite. Et en fait, je suis revenue chez moi 2 jours après. Donc, dans un premier temps, besoin de revenir et j'étais accompagnée. Mais tout avait été rangé. Enfin, voilà, il n'y avait plus de traces de rien du tout. Et le troisième jour, j'ai souhaité rentrer chez moi pour reprendre place dans ma maison. Et seule, je voulais être seule. Donc malgré les réticences qu'il y avait autour de moi, j'ai essayé de rassurer mon entourage en précisant que ça allait aller.
Ça se comprend parce que quand il y a toute cette période-là d'enterrement, c'est un tourbillon non-stop et on doit gérer sa propre douleur mais aussi celle des autres, plus tout ce qu'il y a à organiser.
Tout
et il arrive
fait,
un moment
ouais.
où on a juste besoin d'être seul pour pouvoir commencer à intégrer ce deuil en fait. C'est la première étape
ça.
Et on ne peut pas la vivre quand il y a un tourbillon autour de soi.
Oui, et puis on essaye toujours de protéger les gens qu'il y a autour de nous. Et du coup, je ne pouvais pas accueillir la douleur telle que je souhaitais l'accueillir.
Bien sûr.
Et je me suis dit, j'ai deux portes de sortie. Soit je m'en vais du côté obscur et là je tombe et je m'enfonce. Soit je vais vers la lumière et dans ce cas-là, il faut que je trouve le moyen et les outils pour surmonter tout ça.
Oui.
Et j'ai choisi d'aller vers la lumière. Et en fait, j'ai accueilli tout ce que je traversais, je l'ai accueilli. Et quand je suis rentrée chez moi, que je me suis retrouvée seule chez moi, bien sûr que ça a été difficile, bien entendu, parce que y a un vide immense et puis je voyais mon compagnon partout. Mais je me suis autorisée à pleurer, je me suis autorisée à crier, je me suis autorisée en fait à exprimer la douleur qu'il y avait au fond de moi. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, il y a les obsèques à organiser. Et voilà, j'allais étape par étape pour rendre un dernier hommage à mon compagnon, le plus beau qui soit possible avec tout mon amour. Et donc, j'ai organisé ses obsèques, j'ai choisi des textes, j'ai eu la chance de rencontrer une amie qui était très proche de lui, que je ne connaissais pas, j'avais juste entendu parler, je l'ai appelée pour la prévenir et en fait, cette amie avait perdu son fils quelques mois auparavant, de la même manière. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Elle était là pour me soutenir, mais en même temps, moi, je l'ai soutenue. Et en fait, je ressentais une certaine, comment vous dire, un sentiment de.
De vous comprendre sans même mettre des mots, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et puis, j'étais sereine.
Oui. C'est très important ce que vous dites, Ludmila, parce que vous avez ce qu'on appelle vécu un drame en conscience, à chaque étape. Et c'est comme ça qu'on trouve les clés pour avancer sur son chemin de conscience. Parce qu'en fait, quand on résiste, quand on vit un drame dans la résistance, inconsciemment, on amplifie le drame.
Bien sûr, oui.
Alors que
Mais
quand on
ça, je
le...
l'ai compris.
Exactement. Alors que quand on le vit en accueillant le drame, en s'ouvrant à toutes les nuances du moment, à toutes les émotions, alors finalement, on avance et on évolue vers quelque chose qui devient après plus doux, plus léger. Et vous avez eu cette force ou cette intuition-là de comprendre ça et de comprendre qu'en vivant chaque émotion, chaque étape intensément et en toute sincérité, vous pouviez tenir debout et avancer.
Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'apporter mon témoignage parce que je sais que beaucoup de gens vivent des pertes, des deuils et que c'est très douloureux. Et finalement, en accueillant toutes ces émotions que j'ai pu traverser, je les accueillais. Ben, ça leur permettait de s'exprimer. Et de partir.
Et vous de les dépasser, voilà.
Voilà,
Bien
c'est
sûr,
ça.
bien sûr.
Et je m'autorisais à, j'avais envie de rire, ben je m'autorisais à rire. Si j'avais envie de pleurer, je m'autorisais à pleurer. Si, en fait, toutes les émotions, quand elles venaient, je les accueillais.
Sans
Et ça
jugement,
me,
oui, bien sûr.
c'est ça. Et aujourd'hui, je vis pleinement chaque jour, chaque moment. Je ne cherche pas à savoir ce que sera demain. Je ne cherche pas à revoir ce qu'a été hier. Parce que, au fond de moi, aujourd'hui, j'ai compris que, en voulant savoir ce que sera demain ou regarder derrière, on oublie le moment présent. Et c'est
Quel,
le moment présent
oui,
le plus important.
quel message important, évidemment, bien sûr.
C'est vraiment le moment présent le plus important. Aujourd'hui, je suis seule. C'est vrai que cette solitude me pèse un peu. Je dis bien un peu. Parce que j'accueille. J'accueille ce que je vis et je laisse les choses venir à moi. J'ai les bras grands ouverts et je vis. Tout ce qui se présente à moi, je le vis pleinement. Et en fait, depuis que mon compagnon est parti, je n'ai plus peur de vivre.
Est-ce que vous voulez bien me donner son prénom? Non, ça vous ennuie?
Non, non, non.
Quand on parle de quelqu'un qui est parti, ou quand on envoie des pensées d'amour et de lumière à quelqu'un qui est parti, j'aime bien avoir un prénom parce que je pense que c'est plus humain.
Oui, alors oui, il s'appelait Franck.
D'accord, donc on parle de Franck et on pense à lui aussi ce soir. Vous savez, moi je pense que l'amour est quelque chose qui ne meurt jamais. Et qu'après la mort, même après la mort, c'est pareil, l'amour ça ne peut pas s'éteindre. Et c'est cette lumière-là qui continue à éclairer notre chemin, où qu'il aille.
Oui, je lui parle par moments. Mmh. Alors au début, je lui parlais beaucoup, tous les jours. Et les premiers mots, en fait, que je lui ai dit, c'est « je ne t'en veux pas ».
Alors à propos de Mouloud Mila, on va juste nous se taire quelques instants, le temps d'une pause, si vous le permettez.
D'accord,
et très courte,
bien sûr.
Et je vous récupère dans un tout petit instant, merci.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Oui, Ludmila, vous êtes là ?
Oui, oui.
Oui, vous me parlez des mots que vous partagez avec lui et vous continuez à partager. Et il y a autre chose, vous savez, je parle beaucoup quand il y a un deuil de ce qu'on appelle les actes symboliques qui sont très importants. Et en dehors des émotions à accepter pour, comme vous dites, les exprimer, les traverser, il y a des petites choses à faire que je trouve positives et constructives. Par exemple, quand on a perdu quelqu'un, c'est chaque jour de choisir un titre, une chanson, qui est en rapport avec l'émotion précise qu'on ressent ce jour-là. Juste ça, se passer un morceau et le noter. Et quelques semaines plus tard, eh bien, voir l'évolution des morceaux qu'on a choisis, des chansons qui ont accompagné ce chemin-là, par exemple.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait, je chante beaucoup. Et encore plus depuis qu'il n'est plus là. Et c'est vrai que les chansons, en fait, que je chante sont la plupart du temps le reflet de mes émotions.
Eh bien, peut-être notez-les dans un carnet pour voir l'évolution de ce chemin que vous êtes en train de faire.
Ben, je sens que de toute façon, aujourd'hui, je croque la vie, vraiment. La maison, aujourd'hui, ça y est, j'ai repris mes marques, ça ne me fait plus mal. J'ai recommencé à inviter des amis, à recevoir les enfants. Enfin, la maison revit. Elle s'était éteinte pendant plusieurs semaines et là, elle revit. Et moi, je vis.
Et oui, vous êtes l'illustration parfaite de ce que j'explique souvent, c'est que quand il nous arrive quelque chose, on devient victime de ce qui est arrivé. Et ça, on ne peut pas le changer. En revanche, après, on a deux possibilités. Soit on reste une victime éternellement, et ce qui s'est passé nous empêche d'avancer, de grandir, on bloque surtout. Soit on décide d'enlever ce manteau de victime, de vivre intensément ce qui se passe et d'avancer. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Et vous en parlez très très bien quand vous dites « j'ai accepté de traverser des moments épouvantables, mais aussi, je me suis autorisée à rire, j'ai aussi accepté des émotions de joie ». Et ça, c'est très très important, parce qu'on a presque l'impression, quand on est en deuil, que c'est indécent d'oser rire, d'oser sourire.
Bien sûr.
Alors que pas du tout. Et que si la personne partie était encore là, elle serait la première à nous dire de sourire.
Mais quelque part, vous savez, parfois j'ai l'impression qu'il est là, qu'il m'enveloppe de son énergie. Mmh. Et quand je vois ce que j'ai déployé pour ces obsèques... Et sincèrement, c'était une très belle cérémonie. J'ai souhaité qu'elle soit sous le signe de l'amour et du bonheur que nous avons partagé. Et c'était le cas, vraiment. Par exemple, je n'étais pas habillée en noir.
J'allais vous poser la question et pas une seule seconde je vous ai imaginée en noir.
Non, ben non.
Et oui, bien sûr.
Il m'avait offert une robe en jean bleu. Le ciel, j'avais cette robe. Il m'offrait constamment des roses, donc je me suis fait faire une boutonnière avec une rose rouge. Et j'ai acheté une très belle rose rouge que j'avais posée sur son cercueil. Et voilà, et j'ai écrit un texte. Le texte relatait notre histoire avec des anecdotes. Il y avait de l'humour, de l'amour et... Mais ça résumait parfaitement ce que nous avions vécu. Et vous voyez, le jour de ses obsèques, donc c'est le jour de mon anniversaire.
Oh, ça, la symbolique est forte, là, dedans.
Oui. Et quand j'ai appris, mais je m'en doutais un peu, je me suis dit, ça va être le jour de mon anniversaire, et ça n'a pas loupé, c'était le jour de mon anniversaire. Et je le prends comme un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau.
Oui. Mais c'est comme votre façon de vivre tout ça. Vous avez dit ça très bien au départ en disant, j'ai le choix. Soit je me laisse couler du côté sombre, soit je vais du côté de la lumière. Et donc chaque événement, vous le prenez de la manière la plus positive possible.
Exactement. Et je me surprends moi-même, en fait, finalement, parce que je le remercie souvent. Il y a cette phrase qui dit, cette expression qui dit « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Mais ça, c'est un parfait exemple.
Vous avez l'impression d'avoir beaucoup grandi depuis cette épreuve ?
Ah oui.
Oui.
Ah, je suis complètement différente. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. S'il y a des choses qui se présentent à moi, qui peuvent être pas terribles parfois, je l'accueille, je l'accepte. Et puis je me dis, bon, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Je vais apprendre, j'avance. De toute façon, je ne peux pas tomber, vivre quelque chose d'aussi dramatique. Vous savez, c'est comme ce visage que j'ai découvert dans mon jardin. J'ai posé les yeux sur lui, mais vraiment le plus rapidement possible, parce que c'est très marquant. Et en fait, dès que j'avais ce visage qui arrivait dans ma tête, je me disais non, 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 non. Et j'allais chercher des belles photos, je regardais les belles photos. Et ce visage, aujourd'hui, il est dans le brouillard. C'est-à-dire que je n'arrive plus, enfin, c'est pas que je n'arrive pas, je cherche pas à le voir. Hein. Mais quand elle arrive, cette image, elle est dans le brouillard.
Mais vous avez fait un magnifique travail, Lumila, bravo. Et c'est intéressant parce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente ?
Oui, j'en ai entendu parler, oui.
Et vous parlez comme quelqu'un qui aurait vécu ça, mais presque par procuration. Les gens qui ont vécu ça reviennent en disant « de toute façon, maintenant, j'ai plus peur de rien ».
Oui, d'accord.
Et c'est un petit peu comme si vous aviez tiré cette expérience-là de quelqu'un d'autre, mais que ça vous a servi à vous. Cette force.
Alors, oui, c'est vrai que pour moi, cette force que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est lui qui me la donne, en fait. J'ai perdu ma grand-mère il y a une dizaine d'années. Ma grand-mère était une personne que j'adorais, vraiment. Et quand elle est partie, j'étais à ses côtés. Et on dit souvent le dernier souffle, mais c'est vraiment ça, hein. Quand elle a donné son dernier souffle, je me suis approchée de son oreille, je lui ai dit « Mamie, quand ce sera mon heure, je souhaiterais que tu sois là pour m'accueillir. Depuis que ma grand-mère est partie, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur de la mort. Et depuis que Franck est parti, je n'ai plus peur de la vie. » Mais c'est vraiment ça.
Vous connaissez Elisabeth Kübler-Ross ?
Non.
Alors je vous invite à lire tous ses livres, elle a écrit beaucoup de livres, notamment « La mort est un nouveau soleil ». Et elle a accompagné énormément de gens en fin de vie et elle parle très très bien de ces derniers souffles dont vous parlez justement. Allez découvrir Elisabeth Kübler avec un K, Ross, R-O-2-S plus loin.
D'accord, Elisabeth Kübler.
Ross, allez découvrir tous ses livres, elle parle très très bien de tous ces sujets-là. Et vous allez trouver beaucoup d'écho à votre histoire et votre expérience de vie. Merci Ludmila pour ce magnifique témoignage.
Merci à vous. Merci Sabine.
Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour.
Je vous remercie, je le prends en moi. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Et puis surtout à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, accueillez-les pour qu'elles passent.
Merci mille fois. Je vous embrasse, Ludmila.
Moi aussi. Au revoir, Sabine.
Et c'est Marie que j'accueille maintenant. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup. Je vous appelle pour un gros problème que je vis actuellement et ce depuis 2 ans. Alors, il y a 2 ans, je vivais avec mon mari une vie pas très drôle. C'était un homme qui était très tourné vers les femmes, les autres femmes, voilà, sauf la sienne. Et lors d'un... Ouais, sur Facebook, voilà, lors de l'anniversaire d'un membre de ma famille à qui je l'ai souhaité, donc, en ligne,
ouais.
Et en m'inquiétant le lendemain de sa non-réponse, un ami à lui m'a répondu « Ne vous inquiétez pas, il est très occupé, il va certainement vous répondre. » J'ai remercié ce monsieur, cet ami, et je l'appellerai Michel, cet ami, voilà. Et nous avons commencé à correspondre très gentiment, mais très rapidement, la tournure a changé. Il y a eu tout de suite une attirance morale, bien sûr. Hein,
une complicité.
Très forte. Une complicité, plus que ça. Oh, au risque de paraître un petit peu absurde, je dirais une reconnaissance des deux côtés. J'ai 62 ans et ce monsieur m'a tout de suite et très honnêtement prévenu qu'il était, je cite, un vieux monsieur et qui avait été très malade. Voilà, il leucémie, une très très grave maladie, vraiment au dernier stade.
Oui.
Ça n'a pas été, entre guillemets, égal, pas pour lui, hein, mais pour une suite à donner, voilà. Au bout de quelques temps de correspondance, nous nous sommes téléphonés. L'évidence a été encore plus forte. Et je me suis déplacée pour venir le voir, étant donné que dans la ville où il réside, j'ai plein de familles. Nous nous sommes rencontrés, c'était magnifique. Un jour de pluie sur un trottoir où nous avions fait tous les deux une partie du chemin. C'était très, très, très émouvant et magnifique. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre et il a été évident tout de suite que nous ne pourrions plus jamais arrêter ni nous séparer. Ce monsieur va avoir 77 ans dans quelques jours.
Et vous ?
Moi, j'ai 62 ans depuis la fin du mois de juillet.
D'accord, c'est pas une différence énorme non plus.
Non, c'est 15 ans.
Oui.
15 ans. Mais pour moi, il n'y a aucune différence, voilà. Je n'avais vu que très peu de photos de ce monsieur, et surtout des photos de lui jeune. Je l'ai trouvé encore plus beau que sur ces photos jeunes. C'était magique, c'était magnifique. Je précise que ce monsieur est marié, que moi j'étais mariée, que quelques temps après, je n'ai pas hésité à, sur notre désir à tous les deux, hein, bien sûr, à tout plaquer. Et j'ai plaqué une vie que je qualifierais d'opulente. Voilà, une énorme maison, des moyens incroyables. Et je suis partie, j'ai atterri dans un petit studio, comme une ado, avec pas énormément de moyens, parce que par décence, même si mon mari était vraiment, et toujours d'ailleurs, quelqu'un de très compréhensif, parce que je lui ai tout raconté, il a touché le fond, mais je l'ai aidé, nous nous sommes aidés mutuellement, il a beaucoup, beaucoup et très bien remonté la pente. Voilà, ça c'était un aparté. Mais je voulais dire que je ne m'en sentais absolument pas autorisée à vivre comme avant. Et donc j'ai tout réduit, je fais attention à tout. Mais au moins le vrai bonheur, je l'ai.
Donc, si je, voilà. Si je comprends bien, vous vous êtes installée seule dans un studio, mais votre ami...
Mon ami continue pour l'instant de vivre chez lui avec son épouse, qui est au courant de tout depuis plus d'un an. Il n'a rien caché, il ne m'a pas caché, et il lui a fait part petit à petit de son désir de la quitter en lui disant qu'il garderait toujours une belle et grande affection pour elle, mais que voilà, c'était comme ça, c'était... Nous n'avons rien calculé. C'est un amour fou qui nous est tombé dessus. Voilà, ce n'est pas très beau comme expression, mais c'est le cas.
Je comprends bien, mais pourquoi il est toujours avec elle alors ?
Eh bien, parce qu'elle lui fait du chantage. C'est une dame qui a son âge, elle a même un an de plus. C'est une dame aussi, et je compatis. Je compatis pour elle. J'ai de l'estime. Bon, elle a toujours vécu une vie très douce, sans soucis majeurs, sans drame. Et je comprends qu'elle le vive très mal, qu'elle le supporte très mal. Son mari n'a pas toujours été infidèle quand il était beaucoup plus jeune. Toujours été fidèle quand il était beaucoup plus jeune. Mais là, je comprends qu'à son âge, elle se fasse du souci. Matériellement, ce sont des gens qui reçoivent et qui sont beaucoup reçus. Ils ont un fils, des petits-enfants. Et elle se fait beaucoup de soucis. Et dans mon esprit, il serait très bienséant et mon ami est bien d'accord parce qu'il lui laisse tout. La maison, la voiture, tout. J'ai suffisamment pour que l'on vive à deux de façon... honorable,
oui.
C'est-à-dire que les factures soient payées, que nous puissions nous permettre de temps en temps un petit extra. Nous ne demandons pas plus à la vie. Nous demandons juste d'être ensemble, heureux, et de profiter de cette deuxième partie de vie, deuxième et dernière, bien sûr, partie de vie, que la vie, je dis beaucoup ce mot, mais c'est cela, nous offre.
Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble ?
2 ans.
Et je suis désolée d'être un peu brutale, mais je ne comprends pas pourquoi il ne bascule pas, quoi. Qu'est-ce qu'il attend ?
Il a peur. Il a très peur du chantage. Elle lui fait comprendre qu'elle va se supprimer. Que ses petits enfants, là, ce n'est plus de mise, mais quand même avant... ne voudront plus le voir, que le fils est au courant pourtant, que leur fils, pardon, ne veuille plus le voir, que ce soit un marasme terrible dans sa vie. Il est d'une bonté extraordinaire, ne veut faire de mal à personne. Et donc,
vous êtes mis tous les deux dans une situation où vous êtes obligés de faire du mal à quelqu'un.
Oui,
c'est très naïf
de vous
dire non, on veut tout changer, on s'aime, mais on fera de mal à personne, ça n'existe pas. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant ?
Concrètement, j'attends qu'il trouve la force de lui parler, il a déjà fait, mais au moins de lui dire d'une façon toujours très courtoise, avec du respect et gentil. Maintenant, je pars, c'est réel, je fais mes valises, tu gardes tout, mais je pars rejoindre la personne que j'aime maintenant, vous voyez, mais qu'il soit ferme, voilà ce que j'attends. Et lui attend ou qu'elle le mette à la porte, ou qu'elle réagisse mieux, et qu'il n'ait plus peur qu'elle passe à l'acte.
Et si ça n'arrivait pas,
voilà.
Et si ça n'arrivait pas, Marie ?
Alors si ça n'arrivait pas, j'ai bien essayé de lui dire et de me convaincre que... pour moi, ce serait fini, que la peine serait inouïe, mais que... Eh bien, que dans 3 personnes, puisque nous sommes 3 protagonistes, il en faut bien un qui ait le courage de choisir pour 3. Vous savez, j'ai eu 2 mariages. J'en ai un qui a duré 21 ans. Le deuxième qui est en cours de finition, je dirais. Dans le premier, j'étais battue. J'étais battue. J'étais une femme battue, voilà. Dans le deuxième, dès le départ, j'ai un mari qui s'est intéressé tout de suite et sans ménagement pour moi et sans discrétion aucune aux femmes, beaucoup plus jeunes. Je me sentais minable, je pense être une jolie femme, sincèrement. Enfin, on me le dit, j'en suis pas convaincue, mais on me le dit, mais je me sentais tellement nulle, moche, etc. J'ai souffert. Je sais ce que c'est que la souffrance et je préfère souffrir moi une énième fois plutôt que de voir cet homme que j'aime qui est en train de se démolir, lui, de son côté, parce qu'il vit un enfer chez lui. Donc je préfère ceci, je ne veux pas non plus être responsable de la mort d'une femme âgée qui, entre parenthèses, est quand même en parfaite santé. Quand des amis viennent chez eux ou lorsqu'ils sont invités, elle est joyeuse, elle est bien, elle rit, enfin, personne ne pourrait se douter. Mais je crois que je suis tellement habituée à la souffrance que je serai la seule capable à prendre cette décision.
Est-ce que vous êtes sûre qu'il lui a parlé ?
Ah oui, il lui a parlé, il fait chambre à part. Oui, son meilleur ami à lui est au courant depuis hier. Voilà. Et puis tout le monde nous voit ici. Non, il lui a parlé. D'accord. J'ai même reçu des mails anonymes l'été dernier.
Et vous pensez que ça vient
de la part de son fils. Alors je dis anonyme, mais je vous dis de la part de son fils. Parce qu'un de mes fils, j'ai 4 enfants qui sont au courant et qui prennent très très bien tout cela. Mais donc ils ont pu remonter l'auteur de ces mails et sont arrivés quasiment à la porte. C'est une image, mais de ce fils. Donc, et mon ami répondait à son fils, qui savait être l'auteur de ces mails. Il lui répondait que son épouse était au courant, qu'il n'y avait aucun problème. Non, et puis c'est un homme de toute façon qui ne ment pas, qui préfère me dire... J'ai beaucoup de mal, elle me fait très peur. Il préfère me dire ça plutôt que de me mentir.
Certes, vous savez, chaque couple, chaque relation est unique. Donc ça va être à chacun de vous, dans ce couple, de poser ses limites. Et là, vous en êtes à un stade où ça va être à vous, probablement, de poser vos limites. Combien de temps j'accepte cette situation ? Pourquoi j'accepte cette situation ? Pendant combien de temps je peux encore l'accepter ? Et qu'est-ce que je fais quand j'ai décidé que ça s'arrête ?
Ah, qu'est-ce que je fais ? Oui.
Je ne vous demande pas de réponse maintenant. Oui. Je pense que c'est le cheminement que vous allez être obligé de faire. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que personne ne va beaucoup bouger dans cette histoire. Donc à vous de voir quelles sont vos limites, jusqu'où, combien de temps vous acceptez ce trio. Peut-être vous l'accepterez toujours, j'en sais rien. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous direz stop. Mais je crois que c'est vous qui avez les rênes un petit peu dans cette situation-là et que ça va être à vous de décider.
Oui, j'ai pensé que le moins douloureux, et encore, c'est un vain mot, serait de repartir, je ne sais pas où. Serait de repartir, mais je suis quand même un peu perdue. Autant que lui, je suis perdue.
Le problème, c'est que, vous savez, ça me donne l'image du pansement à moitié arraché. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il fait. Il a arraché suffisamment le pansement pour faire mal à son épouse, mais pas suffisamment pour finalement qu'elle puisse elle-même avancer, guérir, et lui-même aussi continuer une autre vie, ou commencer avec vous une autre vie. Et donc finalement, il est là avec ce pansement qui est à moitié arraché, et il fait quoi ? Il le recolle ou il l'arrache ? Et dans tous les cas, ça fait mal, parce que de toute façon, il a cassé quelque chose avec sa femme.
Mais bien sûr.
Donc c'est un petit peu, je dirais presque égoïste, si ce n'est maladroit, de rester en suspens comme ça. C'est-à-dire que, certes, il ne la quitte pas, mais de toute façon, a priori, il vous aime vous, il vous voit encore vous.
Oui.
Donc la douleur pour elle est quand même présente. Et en même temps, en bloquant la situation, en gelant cette situation-là, il ne lui permet pas non plus à elle d'évoluer, d'avancer. Oui, on parlait tout à l'heure de vivre des choses en conscience. C'est-à-dire d'accepter les émotions, même si elles sont très douloureuses, de les exprimer, et puis un jour d'avancer. Et là, en fait, c'est comme s'il appuyait tous les matins sur le bouton reset, on recommence.
Oui, exact.
Même scénario, mêmes acteurs, et on recommence. Et ça fait du mal à tout le monde, finalement.
Mais bien sûr, je lui ai dit, il vaut mieux un coup de poignard que plein de petits coups de canif, parce que il entretient, sans le vouloir, il n'y a aucune malice de sa part, mais par exemple, nous nous voyons 3 fois 4 heures par semaine, les week-ends c'est exclu, les messages sur Messenger, c'est quand elle n'est pas là, ou alors quand elle est là, et qu'elle le sait, bien sûr, c'est une femme intelligente, elle le voit, elle le sait, eh bien, au bout d'un moment, il arrête, par respect, je dis par respect, je mets des guillemets, les coups de fil, c'est quand elle va faire les courses, mais il entretient chez elle le fait de ne pas être partie, donc l'espoir.
Exactement.
C'est tel que je le vois en tant que femme.
Bah, c'est la réalité, Marie, c'est la réalité.
Oui.
Il ne prend pas de décision. Il vous a laissé, vous, quand même, faire un sacré sacrifice. Et lui ne prend pas de décision.
Oui.
Ce n'est pas très courageux. Ni vis-à-vis de sa femme, ni vis-à-vis de vous. Même si l'intention... Je ne le connais pas, donc je veux bien croire que l'intention est positive. Mais avec,
oui.
Vous savez, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein.
Oui, bien sûr.
Avec une intention positive, il fait souffrir tout le monde.
Voilà.
Et dans cette histoire, de toute façon, il y a des gens qui vont souffrir plus que d'autres, mais à un moment donné, il faut choisir. On peut pas. C'est ce que vous disiez avec le coup des petits couteaux.
Oui.
À un moment donné, il faut l'arracher pour de bon. Sinon, il n'y a rien qui va cicatriser d'aucun côté. La situation va pourrir entre lui et vous, et elle risque de ne pas s'arranger entre sa femme et lui. Donc, de toute façon, non. À partir du moment où le mal est fait, entre guillemets, ou le bien, puisque vous me dites que c'est une belle histoire d'amour.
Ah oui.
Et quelque part, il faut aller au bout de quelque chose, c'est-à-dire au bout d'une rupture d'un côté et au bout d'une construction de l'autre.
Voilà.
Mais rester. C'est comme s'il avait ouvert une porte, il avait un pied d'un côté, un pied de l'autre, et qu'il disait non, finalement, je ne bouge plus. Ben oui, mais ça fait un méchant courant d'air, cette histoire.
Absolument. Et un courant d'air qui entraîne tout le monde.
Et là, je pense que c'est à vous de mettre un peu le holà dans tout ça. Avec amour, certes, mais avec un peu de fermeté.
Donc de dire que c'est fini.
Non, je ne demande pas. Non, c'est pas ça que je dis. C'est de choisir vraiment ce que vous acceptez ou plus. De dire voilà, je peut-être on se donne encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est vous qui voyez. Mais au-delà, oui. Il faut vraiment qu'il y ait une décision qui soit prise. Sinon, moi, je ne vais pas tenir le coup.
Je lui ai déjà dit ça. Et je me suis haïe de lui mettre des ultimatums. Il les a évidemment très, très mal vécus. Il a eu très peur.
Mais il faut lui faire comprendre que ce ne sont pas des ultimatums pour prendre le pouvoir ou pour le blesser. C'est qu'à un moment donné, la situation n'est pas vivable. Elle est vivable pour personne, en fait, cette situation-là.
Non.
Donc, c'est pas mettre un ultimatum, c'est dire, écoute, voilà, il y a trop de souffrance pour tout le monde. Donc, prends une décision. Combien de temps il te faut pour prendre une décision ? Et vous, à vous-même, la question à vous poser, c'est combien de temps, moi, je vais tenir comme ça encore ? Et est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir ? Après,
oui.
Ce qui se passe avec sa femme, j'ai envie de vous dire que ça ne vous concerne pas vraiment, c'est à lui de le gérer.
Ah oui,
c'est un grand garçon, c'est à lui de prendre des décisions et de savoir comment il peut faire pour que les choses se passent proprement. Mais là, ce qu'il fait, c'est pas propre. Pour personne.
Non, ce n'est pas propre, non. Je le dis avec beaucoup d'amour, mais je le pense.
Et
voilà.
Oui. Et dites-lui aussi à lui, même avec beaucoup d'amour, mais dites-lui avec aussi beaucoup de fermeté, que ça n'est pas possible. Quand on a commencé quelque chose, on le termine. D'autant que là, si sa femme ne le savait pas, à la limite, on pourrait se dire, bon, elle n'en souffre pas.
Oui.
Et il joue sur les deux ou les trois tableaux, parce qu'il y a 3 histoires différentes, en fin de compte. Il y a une histoire entre elle et lui, entre lui et vous, et entre vous trois. Mais finalement, tout le monde souffre.
C'est ça. Tout le monde souffre à différents niveaux, mais tout le monde souffre et beaucoup.
Et donc, il faudrait vraiment que ce monsieur prenne ses responsabilités, soit envers vous, soit envers sa femme. Mais il ne peut pas rester au milieu.
Voilà. Vous savez, moi, j'en suis arrivée au point où je veux une réponse. Enfin, j'aimerais une réponse. Et je lui ai dit qu'elle soit négative ou positive. Négative, je serais obligée d'aller de l'avant, de me tourner vers une autre vie. Jamais je ne reviendrai avec mon mari, bien sûr. Mais au moins de regarder ailleurs, dans une autre direction.
Ben on est bien d'accord, on est bien d'accord, Marie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Oui. Et je vous remercie de votre écoute et de vos conseils.
Avec plaisir. Je vous embrasse.
Moi de même. Au revoir.
Au revoir, Marie.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Choisir Europe 1 pour accompagner votre soirée, je vous en remercie. Vous êtes sur la libre antenne, encore en direct jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure pour dialoguer, pour partager nos expériences de vie. Vous pouvez continuer à nous appeler au 3921. Hassan et Oscar vous accueillent pour vous guider jusqu'à moi. Et je vous rappelle aussi que tout au long de l'émission, vous pouvez réagir, participer par SMS en tapant le 73921 et en commençant par le mot nuit. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous par mail à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. Sachez d'ailleurs que si, pour une raison ou pour une autre, vous avez envie de témoigner, mais que ce soir vous ne pouvez pas appeler, inscrivez-vous tout simplement par mail, pour demain soir ou pour le week-end prochain. Nous envoyez un petit message à libreantenne@europe1.fr avec votre téléphone. Et Oscar et Hassan se feront un plaisir de vous rappeler.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Annick que j'accueille maintenant. Bonsoir Annick.
Bonsoir Sabine, merci de m'accueillir.
Je vous écoute.
Je commencerai par ce témoignage bouleversant, cette leçon de vie, cette force intérieure de cette jeune femme.
Ludmila.
Pardon, je ne me souviens plus de son prénom.
Ludmila.
Ludmila. Qui s'est exprimée tout à l'heure.
Oui, on a eu
un peu chamboulé.
Une avalanche de messages disant que c'était vraiment exceptionnel. Ouais.
Donc je pense vraiment, vraiment de tout cœur à elle. Et nous, enfin, on a chacun nos épreuves tout au long de notre vie.
Oui.
Alors évidemment, moi, ce que je vis, ce que j'ai vécu, c'est... C'est vrai, c'est rien par rapport à ce qu'a vécu cette jeune femme. Mais bon. Donc, ça a été très difficile pour moi de prendre mon téléphone et de vous.
Il n'y a pas de comparaison, Annick. Il n'y a aucune comparaison. Chacun a des épreuves à des moments différents de la vie. Et malheureusement, le malheur des uns n'allège pas le nôtre.
Ouais. Voilà, moi, j'ai quitté Paris où je vivais depuis 28 ans, où je travaillais depuis 28 ans, en 2006, une année avant le décès de mon père, qui était très malade. Et j'étais très heureuse à Paris, et pour être auprès de ma mère, qui était en Normandie, où j'ai grandi, à la campagne. Et j'avais un travail qui me plaisait beaucoup. Et en même temps, que mon père était très très malade, était dans un EHPAD. Mon dernier employeur, donc, a profité de ma tristesse et pour me mettre à l'épreuve et pour me harceler moralement et mettre quelqu'un à ma place.
Il a cherché à créer la faute professionnelle ?
Oui, j'ai recherché une faute professionnelle alors que nous travaillions ensemble dans les meilleures conditions depuis 4 ans, pendant 4 ans. Mmh. Et en fait, c'est sa maîtresse en fait, qui cherchait à prendre ma place, donc à profiter de ma tristesse. Et voilà, donc ça c'était une épreuve. Donc je sentais que je tombais vers la dépression et il fallait pas. Donc puisque tous les week-ends je rejoignais ma mère à la campagne. Et j'ai dit du mal à m'exprimer. Et donc j'ai décidé de quitter Paris, de déménager et de déménager la maison de mes parents à la campagne et de trouver un appartement et de vivre aux côtés de ma mère.
C'était plus facile pour vous ?
Pardon ?
C'était plus facile pour l'organisation du quotidien ?
Je ne sais pas, oui et non. Oui et non, parce que j'étais très heureuse à Paris. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et puis, j'ai dit, maman, elle ne va pas pouvoir rester toute seule. Alors, je lui ai dit, est-ce que c'est moi qui lui ai proposé ? Je lui ai proposé, j'ai dit, est-ce que ça te ferait plaisir que je quitte Paris pour... et qu'on vive toutes les deux, je vais nous trouver un appartement. Et puis donc, nous avons vécu ensemble. Donc ça, c'était, j'ai quitté Paris en août 2006. Mm-hmm. Et papa décédé en novembre 2007, fin novembre 2007. Et donc, nous étions donc à trouver un appartement dans la même ville où papa était dans son EHPAD. Et donc, les premières années, bon, en fait, j'étais auprès de ma mère. Donc, j'étais son aidante familiale, en fait. Voilà, enfin, ma mère était en forme à cette époque-là. Et puis, aujourd'hui, ma mère, j'habite Nantes. Et j'ai pris ma mère, donc, dans mon petit appartement à Nantes. Et je lui ai laissé ma chambre pour que nous soyons ensemble. Et ma mère a aujourd'hui 91 ans et j'ai fait, il y a 2 mois, j'ai fait un burn-out. Donc j'étais hospitalisée pendant 15 jours au soin du CHU de Nantes. Ça s'est très 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 mal passé. Enfin, je regarde un affreux souvenir, ces 15 jours, pour diverses raisons. Et donc, comme ma mère ne pouvait pas rester toute seule au sein de mon petit appartement, ma mère a été envoyée dans un des hôpitaux du CHU de Nantes. Mmh. Et en fait, on a essayé de nous séparer, en fait. J'ai plus une nouvelle d'elle. Moi, on était dans 2 hôpitaux différents. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais plus de nouvelles d'elle. Je ne savais pas où elle était. Alors, j'avais demandé à ce qu'elle aille dans une clinique où on avait tout son dossier médical. Et puis, finalement, ils l'ont envoyée dans un hôpital. Et en attendant que moi, je sois de retour. Et puis, quand je suis rentrée, parce que c'est difficile de se remettre d'un burn-out. J'ai des hauts, j'ai des bas. Je me remets petit à petit, ça va quand même beaucoup mieux. Et derrière mon dos, sans qu'on me prévienne, cet hôpital avait déjà fait des recherches, était en cours de recherche d'un EHPAD pour ma mère et de la mettre sous tutelle, sans que je sois au courant. Alors que c'est mon père qui, avant son décès, m'avait demandé est-ce que si jamais un jour j'ai Alzheimer ou si jamais un jour je décède, est-ce que tu pourrais t'occuper de ta mère ? Alors j'ai dit, écoute papa, je ne peux rien te promettre, mais peut-être oui. Et puis quand papa est tombé très malade, donc je me suis décidée à quitter Paris, à déménager.
Vous avez été fidèle à cette promesse-là ?
Oui, je suis restée fidèle à cette promesse.
Mais elle pèse lourd, cette promesse-là, vous en rendez compte ?
Pardon ?
Elle pèse lourd, cette promesse-là. Est-ce
oui,
que vous
elle
vous en
pèse lourd parce que je dis. Oui, parce que je m'en rends compte parce que je me dis que, en fait, ma vie, j'ai une partie de moi qui est morte et une partie de moi. Pardon. Et une partie de moi qui est vivante. C'est-à-dire que ma vie s'est arrêtée, entre guillemets, à 49 ans. J'en ai 64 aujourd'hui. Et je me suis donnée entièrement à ma mère. Entièrement à ma mère. Alors, au départ, bon, c'est une taiseuse, ma mère. Moi, je suis quelqu'un d'assez... J'aime les autres, j'aime échanger. Et je crois que, d'abord, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Sans vouloir me vanter, j'aime les autres, donc je dois quand même un peu m'aimer.
Oui, mais pardon, Annick, mais moi, je vous dirais, avant de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi.
Ben oui, mais je me suis occupée de moi pendant des années, des années, des années, des années. Et puis, un beau jour, je me suis donné corps et âme à ce que, ce qu'on m'a dit à l'hôpital. On m'a dit que j'étais victime. Je ne connaissais pas ce mot. J'étais victimiste. Oui, je ne connaissais pas ce mot.
Victimiste.
Jusqu'à en perdre la vie.
Jusqu'à en perdre la vie. Vous êtes positionné dans un drôle de rôle. Juste pour comprendre la suite de l'histoire, aujourd'hui, ça en est où, du coup? Est-ce qu'elle est en EHPAD? Elle est sous tutelle?
Alors,
elle est chez vous?
Justement. Non, parce que j'ai refusé l'EHPAD. Là, je suis en train de terminer un livre d'Anne-Sophie Pelletier, donc je suis en train de terminer un livre d'Anne-Sophie Pelletier qui s'appelle EHPAD, une honte française, le témoignage choc d'une soignante qui a été aide à domicile, c'est bouleversant son bouquin, qui a été aide à domicile, qui a travaillé dans des EHPAD et tout, et qui, en changeant les prénoms de ces
personnes... Oui, on en parle beaucoup de ce livre en ce moment, oui.
Ah ouais, c'est absolument... J'en ai pleuré, j'ai des post-it partout, à presque toutes les pages, etc. C'est bouleversant, et c'est vrai, elle dénonce surtout par rapport à ses collègues, par rapport à tout là-haut, si vous voulez, les associations aussi, qui s'en mettent plein les poches aussi, etc., etc. C'est bouleversant, son bouquin, je suis en train de le terminer, là. Et donc, je perds un peu le fil de la conversation.
Je vous demandais où étiez-vous concrètement aujourd'hui?
Oui, vous me demandiez. En effet, ben aujourd'hui, ma mère est toujours, elle est revenue, donc elle est à côté de moi. Donc moi, j'ai refusé l'EHPAD parce que moi, mon père est décédé dans un EHPAD, ça a été épouvantable, épouvantable. Donc moi, je ne peux plus rentrer dans une maison de retraite. Maman ne souhaite pas non plus, mais en même temps, bon, elle ne souhaite pas non plus aller dans une EHPAD, dans un EHPAD, pardon. Et puis, je me suis décidée, suite à mon burn-out, on m'a dit, il faut que vous pensiez à vous, parce que vous venez de me dire, et il faut que vous preniez des aides à domicile. Alors, j'ai choisi une association qui m'a été recommandée par le CHU de Nantes, parce que des associations, il y en a 4 par rue, il y a une concurrence énorme. Enfin, je pense pas que ce soit qu'à Nantes, je pense que ça doit être dans toutes les grandes villes. Ils se font une concurrence énorme. Et donc, j'ai choisi une association. Et les deux premiers mois, donc c'était en juillet, ça s'est très, 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 très bien passé. J'ai eu deux jeunes filles. Une jeune fille qui est partie. Alors, ce qu'elle devait dans cette association, en fait, rémunère, c'est... Alors, donc, je ne donnerai pas le nom, si vous permettez.
Oui, bien sûr.
Cette association, donc, rémunère un petit peu mieux, parce que c'est un métier qui est très mal rémunéré. C'est un métier qui est très, très, très difficile. C'est une vocation. Et pendant les deux premiers mois, j'ai eu une future infirmière qui faisait des aides à domicile, qui est venue s'occuper de ma mère, pour moi me soulager. Et une jeune fille de 23 ans, qui était merveilleuse et qui est partie en Afrique pour s'occuper de personnes handicapées. Qui est partie un an en Afrique pour s'occuper de personnes handicapées, donc elle est partie à 18 ans. Et qui travaillait pour l'Arche aussi, qui est partie aussi un an au Canada, toujours pour l'Arche. Je ne me souviens plus qui est décédé, celui qui a fondé des maisons, qui a fondé l'Arche, l'association L'Arche.
Je ne connais pas son nom.
Qui est décédée il y a 3-4 mois et qui s'occupait elle s'est occupée en fait de personnes handicapées mentaux. Voilà. Donc en fait, cette association qui est implantée à Nantes depuis un an et demi maintenant, il fallait que dans le recrutement, donc c'est difficile hein, parce que en fait, il faut avoir un recrutement attention au recrutement. Il faut avoir 3 ans minimum d'expérience ou bien un diplôme, un bac SMS, on a la santé, un bac SMS, qu'on appelle un bac SMS. Voilà, et donc, alors les deux premiers mois, j'ai eu deux jeunes femmes, c'est extraordinaire, jusqu'à fin juillet. La jeune femme donc, qui était infirmière donc, est partie, mais on ne me l'avait pas dit. Partait fin juillet, donc elle partait en vacances, elle méritait ses vacances. Et début septembre, elle reprenait sa dernière année d'études pour devenir infirmière à domicile. Donc, je la regrette énormément. Et puis après, début août, ça a été un défilé. J'en suis à la 13e personne. Et là, c'est plus possible. C'était plus possible.
Qu'est-ce qui convient pas à chaque fois ?
Elles ne sont pas débrouillardes. Elles ne sont pas débrouillardes. Alors, au départ, on nous présentait les personnes, laissant changer tout le temps d'horaire. Ils ont un mal fou à recruter des jeunes femmes ou des jeunes filles parce qu'il y a énormément de concurrence. Notre responsable de secteur donc, est venu ici la semaine dernière dans mon petit appartement. Et parce que ma mère n'est pas très facile. Pas très facile. Et donc, et en plus, elles ne sont pas débrouillardes. Beaucoup ne sont pas débrouillardes. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, je m'occupe de ma maman. Donc, en plus, si elle ne lui donnait pas de douche. Donc, moi, je me suis remise. J'ai dit, maman, je vais à nouveau te donner des douches parce qu'en fait, elle est sous l'oxygène. Elle a fait une embolie pulmonaire l'année dernière, il y a un an et demi. Et elle a fait une septicémie. Et donc, il y a un kiné qui vient deux fois par semaine pour la faire marcher. Et donc, tout redevient très bien. Je m'occupe d'elle, j'arrive, je fais ses repas.
Oui, Annick, mais ce que j'entends, c'est que tout redevient très bien quand vous reprenez le contrôle.
Ben oui, je reprends le contrôle.
Est-ce que vous êtes prête vraiment à lâcher prise un petit peu ?
Ah oui, je lâchais prise. J'étais dans mon grand salon qui me sert de chambre, de bureau, où j'ai ma télévision. Voilà. Et puis, mais c'est vrai que toute cette jeune femme me toquait à ma porte pour savoir où était le lait, où se trouvait. J'ai un petit appartement, il fait 49 mètres carrés. Où se trouvait le lait, où se trouvaient les cuillères, les couverts. Bon, j'ai dit quand même. Alors, au départ, donc, ce qui m'a fatiguée, en fait, c'est que j'étais obligée de tout le temps répéter les mêmes choses. Le lait, il se trouve dans le frigo. Cherchez, vous trouverez. Je leur disais gentiment. J'étais toujours accueillie avec le sourire. Et j'ai fini par me mettre en colère. Voilà, j'ai fini par me mettre en colère en disant « s'il vous plaît, j'ai besoin de me reposer. Si j'ai accepté de prendre des aides à domicile, c'est pour que je puisse me reposer. » Voilà,
ouais, mais je
pas
pense
pour que vous veniez toquer à ma porte.
Je pense que le problème est un petit peu plus profond que ça, Annick.
Peut-être, c'est possible.
Et je ne pense pas du tout que vous soyez pour l'instant dans l'idée de lâcher prise.
C'est possible.
Parce qu'à la moindre occasion, c'est pas bien grave si on vous demande où est le lait, où sont les cuillères, où est le problème. Et si vous avez besoin de vous reposer, vous ne restez pas là, vous partez. Partez.
Pardon ?
Je dis, si vous avez besoin de vous reposer quand il y a quelqu'un, partez. Partez un après-midi, partez chez une amie.
Là, il
n'y
a plus personne, là, maintenant. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus personne.
Bah oui, forcément, parce que vous avez relancé la boucle pour redémarrer comme avant. Vous restez dans...
Il y a une... Comment dirais-je ? Elles n'ont plus voulu venir parce que ma mère aurait été trop difficile.
Bah, c'est-à-dire qu'entre votre mère et vous, il doit être assez difficile de trouver une place. Sa place.
Je sais pas. Peut-être.
Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de vie, que vous ne pensez plus à vous ? Pourquoi vous acceptez ça ?
Parce que j'ai une enfance, des blessures enfantines. Ma mère m'a rejetée.
Il y a une grosse...
Ma mère m'a rejetée quand j'étais adolescente. Mes frères, on est une famille complètement éclatée. Mes frères me détestent, tout le monde me déteste, dans toute ma famille. J'en souffre énormément. Alors je me suis dit qu'en quittant Paris, on allait peut-être rattraper le temps perdu.
Annick, vous êtes en train d'essayer de réparer quelque chose qui n'est pas réparable. Et en voulant réparer ça, vous faites encore plus de mal. Je suis désolée, mais quelquefois, les vérités qu'on n'a pas envie d'entendre sont souvent celles qu'on a besoin d'entendre. Parce qu'en faisant ça, c'est insoluble et vous vous faites encore plus de mal. Parce qu'on ne vous a pas respecté, c'est vous qui ne vous respectez plus aujourd'hui. Être aidant, c'est bien.
Pardon ?
Je dis être aidant, c'est bien, pourquoi pas ? Mais la première personne à aider, c'est vous. La première personne à respecter, c'est vous. Vos besoins, vos désirs, ça devient quoi dans tout ça ?
Je suis partie à 18 ans. Je suis partie à 18 ans de chez mes parents.
J'ai l'impression que ce que vous cherchez désespérément, c'est cet amour que maman ne vous a pas donné.
Oui.
Et oui, j'entends bien, mais ça, il va falloir travailler. Est-ce que vous êtes suivie par une thérapeute ?
Je suis suivie par un psychiatre, mais il est un taiseux, alors je... ça ne va pas.
Et oui, vous
j'ai
avez...
arrêté.
Vous avez besoin, vous avez besoin de parler, pas d'être face à un mur.
Non, j'ai besoin d'être, par exemple, dans un groupe de parole avec des personnes qui... sont par exemple des aidants qui vivent peut-être la même chose que moi.
Alors, il y a deux axes. Est-ce que vous, vous connaissez, vous m'avez parlé d'associations, mais ce n'était peut-être pas les mêmes. Est-ce que vous connaissez l'association qui s'appelle SOS Répit ?
Non.
Qui permet justement aux personnes qui sont comme vous de pouvoir trouver des places d'accueil temporaires pour votre maman, par exemple, pour que vous puissiez pendant un jour, une semaine, souffler.
SOS Répit ?
SOS Répit, vous trouvez leurs coordonnées sur Internet, SOS-Répit.
Oui, alors j'ai Internet, mais je ne m'en sers pas parce que je suis une anti-écran, je suis une anti-Internet. Alors j'ai Internet tout de même, mais je ne m'en sers pratiquement jamais. Je l'ai pris uniquement pour regarder des émissions en replay. Voilà.
Et bien là, vous le prendrez
pour. Je n'ai pas de smartphone.
Et bien là, vous le prendrez.
J'ai Internet.
Vous le prendrez pour trouver de l'aide. Non. Il y a SOS Répit, ça me paraît vraiment important pour vous, mais surtout, il y a deux axes. Effectivement, des groupes de parole, pourquoi pas, pour partager ce qui se passe, pour partager cette expérience d'aidant. Mais il faut vraiment travailler avec une thérapeute maintenant, d'urgence, pour comprendre, travailler sur...
Thérapeute ou... Parce qu'il y a psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre, psychologue...
Alors, psychiatre, le seul intérêt, c'est le suivi médical en même temps, si vous êtes sous antidépresseur. Mais il faut quelqu'un avec
non,
qui
j'en ai, j'ai très peu de médicaments et je diminue toute seule parce que je prends quasiment pas de médicaments. Juste un anxiolytique et un antidépresseur, mais je prends la moitié du comprimé pour pouvoir arrêter.
D'accord. Non, il vous faut une je sais pas, une psychologue, une psychothérapeute, peu importe, quelqu'un avec qui vous avez une vraie complicité, un vrai échange. Pas quelqu'un
il y a quelques années, j'ai eu une psychologue clinicienne avec laquelle ça se passait bien, mais ça, je me dis finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté, je sais pas.
Vous avez travaillé sur quoi avec elle ?
Je trouvais qu'elle me jugeait beaucoup.
Alors ça, c'est à
fuir. Je trouvais qu'elle me jugeait, ça me dérange. On n'a pas le droit de juger quelqu'un.
J'allais vous le dire, non, c'est à fuir tout de suite. Aucun thérapeute n'est en droit de juger qui que ce soit, surtout pas son patient.
C'est ce que je ressentais. On a eu un très bon contact. On a eu un très bon contact, mais je sentais qu'elle me jugeait. Et je ne pense pas me tromper, malheureusement.
Non, dans ces cas-là, trouvez quelqu'un d'autre. Mais vraiment, commencez à comprendre avec beaucoup de bienveillance pour vous-même que cette blessure-là, vous n'allez pas la soigner de cette manière-là.
Et puis j'ai cette blessure-là, puis j'ai aussi un gros, gros problème qui n'a rien à voir, mais qui fait que... Parce que j'ai voulu quand même mourir hein, quand j'étais hospitalisée. C'est ma mère qui a appelé au secours avec son collier.
Oui.
Son boîtier. Son alarme.
Oui.
Oui, son alarme.
Quel est l'autre problème ?
Et l'autre problème, c'est que je loue un appartement à un politique à Nantes. Alors, et c'est un monsieur qui est ultra riche et tout, et qui m'a menacée. Alors, je suis là depuis 2013, février 2013, et en fait, j'ai toujours payé mon loyer depuis que je suis arrivée à Paris à l'âge de 25 ans. J'avais un petit appartement après mon divorce, donc j'avais un petit appartement de 20 mètres carrés, et j'étais heureuse comme tout, j'avais des amis, j'avais plein d'amis, j'avais plein de relations, j'étais heureuse, je sortais, j'allais à des conférences, je faisais plein de choses, là je fais plus rien du tout, je suis complètement repliée sur moi-même, j'ai pas envie de sortir, j'ai peur de sortir, et puis Nantes n'est pas une ville très, enfin comme beaucoup de grandes villes, Nantes est anxiogène, je vais même plus dans le centre de Nantes. On parle de Nantes, mais le peu d'amis qui me restent à Paris, Bon, il y en a qui sont partis, qui font plus de ce monde. Et puis, ce sont des amis, on les compte sur les doigts, des vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main. Et j'ai un autre ami qui est dans le sud de la France et on se téléphone. Et donc, je veux dire, je me sens plus excitante. Je suis partie une semaine là à Paris, l'avant-dernière semaine d'août. Je suis partie toute seule une semaine à Paris. Et ça a été un ouf, parce que je n'ai pas pris de vacances depuis l'âge de 49 ans, en fait, pour moi toute seule.
Oui.
Et si je partais avec ma mère, quand elle allait bien, nous partions à la boule, ou au Pouliguen, donc passer des... au mois de... quand il n'y avait pas la foule, parce que j'aime pas la foule, et je n'aime plus la chaleur, les grosses chaleurs, donc on partait au mois de fin septembre, octobre, on partait 15 jours avec ma mère, et on faisait des grandes balades le long de la mer.
Annick, arrêtez de revenir à maman dans chaque phrase, parlez de vous un peu. Vous me dites, je pars en vacances une semaine, oui, comme avec maman, et vous repartez avec l'histoire de maman. Donc vous étiez heureuse de prendre du temps une semaine pour vous?
Ben oui, j'étais à Paris, je suis allée à Paris, voilà. Je me suis décidée et j'ai passé une semaine merveilleuse. Alors que je suis restée donc 28 ans à Paris, j'ai travaillé à Paris et là j'ai marché toute la journée du matin, je me levais à 7 heures du matin. Et toute la journée, je partais visiter ce que je n'ai pas pu faire.
Et
à
c'est la
où
liberté.
Et
oui.
Ouais. Et en plus, je suis quelqu'un de très gai, de nature. J'aime ma liberté, mais j'aime aussi être seule.
Oui, mais ça, c'est votre droit. Mais vraiment, il est urgent de comprendre qu'il y a un travail à faire dans ce lien à cette maman-là.
Voilà. Alors, il y a maman, et puis en même temps. Alors, il y a en même temps aussi ce propriétaire, cette agence immobilière qui me... Alors, on dit toujours que les pauvres propriétaires, etc. Mais il faut dire qu'aussi, il y a des bons locataires. Et donc là, vraiment, c'est un... en exagérant un petit peu, parce qu'évidemment, il ne pleut pas chez moi, mais c'est un marchand de sommeil. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de payer mon loyer, parce que c'est une chose que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai 64 ans. Je suis locataire depuis l'âge de 19 ans. À Lyon, d'abord, où j'ai vécu et travaillé, et après, à Paris. Et depuis que que j'ai décidé de quitter Paris, c'est la loi des séries. Et nous avons beaucoup déménagé. On n'a eu que des problèmes d'appartement.
Attendez, là, Annick, on part sur un autre sujet. J'ai beaucoup d'appels derrière vous. Je ne vais pas pouvoir enchaîner sur des histoires d'appartements, de logements, de propriétaires.
Non.
Vous voulez en venir où avec cette histoire d'appartement?
Je reçois des lettres, mais je ne les ouvre pas.
Bah oui, mais si vous payez pas votre loyer, c'est... Voilà,
mais oui, mais lui, il n'a pas fait de travaux. On avait prévu des travaux.
Vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans ces cas-là, vous faites venir un huissier, vous faites constater ça, mais vous ne pouvez pas...
C'est ce que j'ai fait.
Vous ne pouvez pas arrêter de payer le loyer comme ça. Enfin bon, ça serait un autre...
C'est ce que j'ai fait. Oui, d'accord.
Et on va pas mêler les deux sujets parce que là, ça va devenir un peu compliqué pour tout le monde. Je pense que vraiment... Et il y a beaucoup d'SMS qui arrivent dans ce sens-là. Vous oubliez l'essentiel, c'est vous. Il y a une chose qu'il va falloir faire aussi avec un thérapeute, c'est rendre à papa cette promesse qu'il vous a fait faire parce que ce n'est pas acceptable. Il vous a demandé quelque chose de tellement lourd.
Il n'était pas facile, mon papa, mais il y a beaucoup souffert. Il est mon père et mon père me manque beaucoup. Il était très sévère, mais c'est... Mais je l'aime.
Ça n'a rien à voir avec l'amour, Annick. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous prendre en charge, vous, c'est une urgence maintenant. C'est vous la priorité. Ce n'est ni papa, ni maman.
J'y arrive pas. C'est pour ça que je tenais à commencer mon dialogue avec vous en admirant cette jeune femme qui vous a parlé en premier tout à l'heure. Sa force intérieure par rapport à ce qu'elle avait dit.
Mais Annick, vous n'y arrivez...
Moi, je l'ai plus, cette
force. Vous n'y arrivez pas parce que vous ne vous faites pas aider. Il est vraiment urgent de commencer une thérapie. Vous avez besoin de parler. La preuve, ce soir, vous avez terriblement besoin de parler. Il faut que ça sorte. Donc, allez voir...
Vous pouvez laisser mon téléphone à qui à qui il faut tomber sur quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien. Je ne vois personne, non, je vois quasiment personne. Quasiment personne.
Certes, mais c'est pour l'instant, il ne s'agit pas de vous faire des amis, il s'agit d'aller voir une thérapeute d'urgence pour travailler sur ce lien-là avec maman. C'est un lien toxique que vous entretenez avec cette maman-là, parce qu'il vous fait du mal, ce lien-là.
Je ne suis pas maso, pourtant.
Hein, c'est vraiment important. Alors bien sûr, si on a des gens qui sont dans votre région et qui ont envie de prendre contact avec vous, bien évidemment, vous transmettrez leur numéro de téléphone. Mais l'urgence, pour l'instant, avant même de créer du lien social, c'est vraiment d'aller réparer là ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Une thérapeute, c'est-à-dire une psychothérapeute.
Une psychothérapeute,
ou une
oui.
Canaliste.
Non, je pense qu'une psychothérapeute, ça vous conviendra bien.
D'accord.
N'allez pas partir
d'accord,
pour des années d'analyse profonde, simplement comprendre que.
Non, je ne connais pas vraiment.
Comprendre que ce lien-là que vous avez instauré, ce n'est pas le bon, et que ce que vous êtes en train d'essayer de réparer ou de compenser, ça ne fonctionnera pas. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que vous allez réparer ces blessures d'enfance.
D'accord.
Ça va être en parlant, en acceptant certaines choses, en grandissant et en vous apportant à vous l'amour qu'on ne vous a pas donné. C'est-à-dire que vous allez devenir votre priorité à partir de maintenant. D'accord, Annie.
J'ai essayé, Sabine. Merci beaucoup.
Je vous embrasse très très fort.
Moi aussi, je vous embrasse.
Au revoir.
Merci.
Et c'est Louis que j'accueille maintenant sur cette libre antenne. Bonsoir à vous, Louis. Allô, allô ? Louis, est-ce que vous êtes là ? Qu'est-ce qu'on me dit en régie ? Est-ce que Louis est là ? Allô ?
Oui, bah, je suis là. Allô, allô,
vous m'entendez ? Voilà. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça. Bonsoir à vous.
Bonsoir, bonsoir.
Bienvenue.
Ben merci.
De quoi est-ce que vous...
J'entends un écho, je ne sais pas si c'est normal.
Ça ne devrait pas. Est-ce que vous avez un haut-parleur, une radio allumée, quelque
non.
chose ?
Non, non.
Une oreillette ?
Non.
Bon, bah écoutez.
Bah, c'est pas grave.
Nous, on vous entend bien, en tout cas.
Ok, bon, bah, pas de souci alors. Bah, ça ne me dérange pas alors.
Alors, racontez-moi un petit peu votre histoire à vous.
Alors, en fait, j'appelle surtout pour comment dire, je suis alcoolique et polytoxicomane, donc je suis au niveau des drogues, je suis sain depuis plusieurs années, plus de 10 ans. L'alcool depuis quelques mois. Maintenant, je fais ce que je veux avec.
Attendez-le, quel âge avez-vous que je comprenne bien?
34 ans.
Vous avez commencé très tôt, là.
34 ans, j'ai commencé l'alcool avec les amis à 12-13 ans, et j'ai commencé à être alcoolique entre mes 18 et mes 21 ans.
Ok.
Et je m'en suis vraiment rendu compte vers mes 28 ans, 29 ans. Et le déclic qui a fait... Enfin, tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour tous ceux qui sont dans une dépendance et qui disent qu'ils n'y arriveront pas ou qu'ils sont en dépression... c'est pas vrai, et il faut juste simplement se dire que si on a envie, on pourra tout faire. Parce que j'ai tout essayé, j'ai fait des cures, j'ai fait des post-cures, j'ai fait des traitements pour l'alcool. Oui. Ça n'a absolument pas marché, parce que je n'en avais absolument pas envie. Et un matin, je me suis réveillé en ayant tout perdu. Mon ex-compagne avec qui j'ai passé 10 ans, ma propriété qui a brûlé et qui est à l'abandon maintenant. Donc là, je suis hébergé chez ma mère. Je ne peux plus reprendre d'appartement vu que j'ai un crédit immobilier. En plus de ça, j'ai aussi des problèmes judiciaires. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on peut être au fond du trou, mais que si vraiment on veut, on peut vraiment remonter toute la pente. Quoi.
Le premier, premier déclic pour vous, ça a été quoi ?
Le premier déclic, ça a été quand j'ai perdu mon ex. Ça a été un premier déclic où j'avais vraiment envie d'arrêter de boire. Et puis après je sais pas, après après les années qui ont passé entre la rupture et aujourd'hui, c'est-à-dire pour 3 ans, j'ai eu un déclic et je me suis dit non, écoute, tu sais, voilà, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, et donc j'ai décidé de monter mon agence web. Donc là actuellement j'essaie de la lancer, mais ouais, en fait, le déclic, il est venu tout seul, mais c'est vrai qu'il faut le vouloir, quoi. Mais malheureusement, on ne peut pas déclencher des déclics quand on veut.
Mais
il ne faut pas perdre espoir, quoi.
Ça, c'est sûr. Mais vous
non, il n'y a pas de bouton.
Pour comprendre un peu la hiérarchie de votre remontée, vous avez commencé par quoi ?
J'ai commencé par,
une cure, un traitement, une psychothérapie. Vous avez fait quoi?
J'ai commencé, étant tout jeune, à être forcé par ma mère à aller voir des psychologues.
Mm-hmm.
Étant tout jeune, mais ça ne fonctionnait pas.
Ensuite, vous avez tout dit. Quand on dit forcé par ma mère, c'est que déjà, on n'a pas très envie que ça fonctionne derrière.
C'est ça. Bah, j'ai trouvé ma psy cette année.
Mm-hmm.
Moi-même.
Et voilà.
Tout seul. Et ça marche. Et ça fonctionne. Mais effectivement, évidemment, quand on est forcé, ça ne fonctionne pas. Donc, les psys. Ensuite, après, j'ai eu un addictologue qui, lui, m'a sorti des drogues dures. Mais sinon, je suis passé par des cures aussi, en hospitalisation. Mais ça ne fonctionne pas, quoi. Tant qu'on ne veut pas, ça ne fonctionne pas.
Est-ce que vous avez compris aussi pourquoi vous vous autodétruisiez comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous pensiez n'avoir aucune valeur pour en arriver là?
Oui, j'ai compris parce qu'en fait, j'ai été adopté.
Ah.
En fait, j'ai été adopté. Et dès l'âge de 10-11 ans où on se rend compte de la situation, on cherche à savoir qui on est. Surtout que, bon, moi j'ai pu voir ma mère, mon père non, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Mais je sais ce que c'est, quoi. C'était l'adoption
Ça y a une partie de vous qui pensait ne pas avoir de valeur, en fait. Un enfant adopté,
c'est ça, tout à fait, absolument.
Et donc, puisque j'ai pas de valeur, autant me détruire, quoi.
C'est ça, voilà, en fait, on s'autodétruit, en fait, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Puis après... Après, le truc vraiment qui a fait, c'est, ça a commencé par les drogues dures. Et ça, c'est quand j'ai rencontré mon ex-compagne avec qui j'ai passé 10 ans, qui m'a beaucoup aidé pour en sortir. Et puis après, le deuxième déclic pour l'alcool, c'est quand vraiment, quelques années après qu'elle m'ait quitté, que je me retrouve chez ma mère et que je fais le point tout seul et que je me dis, ben voilà, quoi, t'as tout perdu et c'est en partie à cause de l'alcool, quoi. Parce qu'elle est partie en partie à cause de l'alcool.
Oui, j'imagine. Et encore, vous avez eu la chance d'avoir maman pour vous récupérer?
Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire aussi. Parce que là, sinon, au sens propre du terme, je suis SDF. Juridiquement parlé.
Et aujourd'hui, vous en êtes où, alors?
Ben là, je suis hébergé chez elle et puis j'ai monté mon agence depuis ça va faire 2 ans que c'est en place et depuis juin, j'ai eu une commerciale en CDI qui part à la fin du mois puisque ça se passe pas très bien, mais c'est un mal pour un bien. Et le problème, c'est que j'ai pas assez de temps, quoi, parce que j'ai des obligations judiciaires.
C'est-à-dire?
Je dois forcément avoir soit un CDI, soit travailler. J'ai un jugement en appel le 10 octobre. Et si j'arrive et que j'ai pas ma société d'aplomb, c'est sûr que je mange. Mais bon.
Qu'est-ce que vous avez fait?
C'est encore autre chose. C'est des enchaînements en fait, hein, mais sinon c'est des enchaînements, mais c'est tout le, enfin, ce qui m'a amené à ça, c'est l'alcool. Ce qui m'a amené à ça, c'est l'alcool. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là le jugement que j'en appelle, c'est dû après la rupture où j'étais complètement bourré et les gendarmes sont venus et apparemment j'ai mis une droite à deux gendarmes et cassé une vitre.
Ah, quand même.
Donc j'en souviens pas, mais donc vu qu'ils me connaissent, ils portaient pas plainte, mais le juge me connaît, donc ils veulent garder l'affaire. Donc c'est un petit peu mon passé qui me rattrape, mais c'est l'alcool, quoi. Malgré que là, aujourd'hui, je vais me présenter devant le juge en n'étant plus alcoolique, en ayant mon agence, en ayant envie de continuer dans cette voie-là.
C'est-à-dire l'alcool, vous n'y touchez plus du tout?
Je fais ce que je veux avec, en fait. En fait, j'arrive à dire non, j'arrive à dire oui, j'arrive à dire boire un verre ou deux, et maximum trois, et après j'arrête. Voilà. Ou des fois, je bois juste un verre et j'arrête. Ou des fois, je bois pas. Donc,
boire trois verres, vous pouvez pas dire que vous n'avez plus de problème avec l'alcool.
Ah non, mais je dis pas que j'ai pas de verre. Non. Moi, je suis alcoolique notoire, donc je serai toujours alcoolique. Je serai toujours alcoolique. Ça, faut savoir. Ça, par contre, les personnes comme moi qui sont alcooliques notoires seront toujours alcooliques. Ce que je fais est assez dangereux.
Mais oui, parce qu'en général, on n'y touche plus du tout. Sinon,
voilà.
Vous savez très bien
ça.
Que la tentation,
c'est
la bascule n'est pas loin.
Voilà, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Sauf que, moi, à chaque fois que je dis non ou que je dis oui, que je bois juste un verre et que je repars, c'est une victoire, en fait. Pourquoi? Parce que je ne gérais absolument pas ma consommation et vu que je ne bois pas de l'alcool pourri, je me faisais rattraper par l'alcoolisme, en fait. À un simple apéro, en fait. Voilà. Donc là, maintenant, le fait de dire non, par exemple, quand on me dit, voilà, lui, à la fin de journée, des collègues me disent, bah, écoute, on va boire un verre sur le rooftop en haut, ah bah non, 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 moi, je ne viens pas. Donc, c'est, à chaque fois, c'est des victoires.
Ça, c'est une belle victoire, mais en même temps, vous savez que vous êtes sur le fil.
Oui, tout à fait, absolument.
Et que le sol n'est pas encore assez solide pour que vous puissiez avancer en vous disant, ça y est, je suis vraiment libre, quoi.
Non, mais il faut ça, de toute manière, ça, je me le garderai. Enfin, moi, pour moi, je pense que je le prononcerai jamais, ça. Parce que je vois bien comment c'est, je connais mes faiblesses, donc je sais que...
Pourquoi vous dites ça m'arrivera jamais ? Il y a quand même beaucoup de gens qui ont réussi à faire ce chemin-là, avec de l'aide.
C'est-à-dire de ne pas boire du tout ?
Oui, de s'en sortir vraiment.
Ah non, je ne parle pas de pas boire du tout, mais je veux dire, c'est un... comment dire ça ? Je me suis embrouillé tout seul, pardon. je me sens brouillé tout seul.
Je vous disais, le sol est encore fragile. Parce que comme vous vous autorisez quand même à boire jusqu'à 3 verres, vous savez très bien que vous pourriez basculer à nouveau dans une non-limite.
Oui,
et vous me dites, je ne serai jamais sur un socle solide et je ne serai jamais vraiment stable. Et c'est là que je me demandais pourquoi. Parce que si vous faites un travail sur vous, si vous faites aider, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à en sortir vraiment.
Parce qu'en fait, là où j'aurais toujours un risque, c'est parce que justement, j'ai toujours bu parce que j'aime le bon alcool. Et non pas pour boire. Donc de ce côté-là, je ne serai jamais tranquille. C'est-à-dire que si vraiment je veux être 100% vrai, il faudrait que je ne boive plus. Ce qui serait pour moi, de temps en temps, enfin, dans certains cas, un sacrifice, quoi.
Oui. Et au niveau de la drogue, vous preniez quoi ?
Je prenais de l'héro, je prenais de la cocaïne.
Ah oui, donc vous êtes tapé dans les drogues dures tout directement.
Oui,
quoi.
Je consomme du cannabis aussi depuis des années, mais j'ai fait crescendo.
Et là, aujourd'hui, vous en êtes où ?
Là, aujourd'hui, ça fait à peu près 8 ans que je suis clean au niveau des drogues dures.
Parce que tout ça, entre la drogue dure et l'alcool de luxe, entre guillemets, ça a dû vous coûter une fortune, hein ?
Ouais, alors j'étais pas mal non plus parce que
Mais oui.
Je ne payais rien.
C'est-à-dire ?
Oui, parce que c'est moi qui. C'est comment dire ça ? C'est moi qui fournissais un peu tout le monde.
D'accord.
Donc à un moment donné, on c'est comme ça quoi. Puis j'ai fait l'erreur de tomber dans ce que je vendais quoi. Quand j'étais plus jeune quoi.
Mais c'est intéressant de vous entendre dire ça parce que vous êtes encore très jeune en réalité.
C'est ce que
vous parlez presque comme quelqu'un qui atteindrait la cinquantaine et qui se retournerait un peu sur sa vie.
Bah ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit souvent que je suis un papy. Je suis un papy avant l'âge. Et pareil, j'ai des habitudes de papy. Je ne sais pas pourquoi.
Il y a une maturité. En tout cas, moi, ce qui me paraît important, c'est que vous avez déjà fait un sacré parcours de vie. Depuis que vous êtes né, là, il y a un petit garçon qui a vécu plein de choses. Mais pour que vous avez compris, effectivement, il y a quelque chose qui est lié à cet abandon, ce premier abandon de votre première maman.
C'est ça.
Que ça a créé chez vous, plus consciemment et inconsciemment, des blessures. Et que tant que ces blessures-là ne seront pas vraiment cicatrisées, vous serez fragile.
C'est ça,
mais on peut en cicatriser cette blessure d'abandon-là.
Oui, tout à fait. Après, faut encore une fois, faut le vouloir. Quoi. Parce que voilà, par exemple, moi, là, je l'ai voulu. Et par exemple, cette année, j'ai trouvé moi-même ma psy, avec qui je m'entends très bien, qui m'aide beaucoup, qui me suit et qui m'aide beaucoup. Et donc... ne serait-ce que pour ma vie personnelle, ne serait-ce que réapprendre soin de soi, à revivre, etc. Quoi.
Est-ce que vous l'avez toujours su que vous étiez un petit garçon adopté ? Est-ce qu'on vous l'a dit depuis tout petit ?
Oui. Ma mère est venue me chercher au Pérou et elle me l'a dit directement.
D'accord. Donc, ça, quel âge vous aviez ?
Oh, j'avais quelques mois.
D'accord. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas eu non plus la trahison par-dessus ça. Il y a l'abandon,
oui,
mais derrière, ça a été, les gens ont été honnêtes avec vous.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas eu de mensonge. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Et donc, cette psy, vous continuez à la voir ?
Oui, tout à fait. Absolument. Bon. Absolument. Tout comme mon addictologue, d'ailleurs.
Bon, ça, c'est très, très bien. Parce
mon addictologue, ça fait à peu près 12 ans que je le vois.
Oui. Ouais.
Mais c'est pareil, lui, je sais que je le verrai encore pas mal de temps.
Et tant mieux. vous le verrez aussi longtemps que vous en aurez besoin. Et la psy, c'est la même chose. Tant que vous n'aurez pas totalement soigné cette blessure-là d'abandon, il y aura une faille. Et vous savez que cette faille, vous avez tendance à la remplir avec de l'alcool.
Tout à fait, c'est ça.
Donc pour éviter ça, plus la faille se refermera, jusqu'au jour où elle sera quasiment inexistante, plus vous serez solide et plus vous arriverez à avancer sans vous remplir de choses qui vous détruisent.
Oui, c'est ça. Et par contre, j'aimerais bien que ça arrive assez vite, parce que c'est vrai que là, avec tout ça en même temps, c'est un peu difficile, quoi.
Ça arrivera quand le petit garçon qui est en vous comprendra qu'il a beaucoup de valeur.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, certainement. Mais malheureusement, là, pour l'instant, je suis pris avec les délais et j'ai pas le temps de penser à ça parce que faut absolument que je fasse survivre mon affaire. Donc, mais avec le temps, j'ai arrivé à mettre ça de côté.
Mettre quoi de côté ?
Justement. Bah justement, j'ai appris à mettre justement mon problème de côté. Comme par exemple là, pour la priorité qui est mon agence, d'essayer de la développer, d'essayer que ça prenne. J'arrive à mettre de côté un petit peu le problème pour essayer vraiment de.
Eh oui, mais non, ça marche pas comme ça malheureusement. Un problème, ça se met pas de côté. C'est comme un fond d'écran.
Ouais, enfin, tout je m'exprime mal, mais c'est pas mettre de côté, mais disons que j'arrive à faire la part des choses en fait.
Alors peut-être intellectuellement, mais vérifier émotionnellement que tout est ok.
Ben justement, non, le problème, non.
Et ben voilà,
c'est ce que me dit ma psy.
Et ben on est bien d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut, il faut soigner cette blessure jusqu'à ce qu'elle soit vraiment cicatrisée. C'est la clé de tout.
Oui,
c'est la seule et unique clé de tout.
Oui, bah oui, ça c'est.
Jusqu'à ce que vraiment vous compreniez et que le petit garçon en vous comprenne qu'il est important, qu'il a une place dans ce monde, qu'il a de la valeur, quelle que soit son histoire de vie.
Ouais, c'est ça qui est un peu difficile, parce que c'est vrai que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, mais voilà, à chaque fois que j'arrive...
Peut-être intellectuellement, mais on en revient à la même chose, vous le savez intellectuellement parce que vous êtes un garçon intelligent,
ouais.
Mais émotionnellement, il y a une boule encore.
Oui, ça doit être ça, parce qu'en fait, là, depuis un certain temps, depuis que j'essaie de me mettre dans le droit chemin, de refaire les choses bien, à chaque fois que j'arrive au bout... À chaque fois, il y a comme une force qui est là, qui me met un bâton dans les roues, qui me dit tiens, maintenant, il faut que tu me prouves ça encore. Et voilà, tout le temps, à chaque fois.
Et oui, quand on dit il faut que je prouve quelque chose, c'est qu'on pense qu'on n'a pas assez de valeur.
Tout à fait.
Et on en revient à cette blessure-là. Donc, une fois de plus, c'est intéressant de comprendre que vous l'avez bien assimilé intellectuellement, tout ça, mais qu'il y a encore un petit chemin sur le plan émotionnel.
Ah oui, tout à fait.
Jusqu'à ce que ce petit garçon soit suffisamment sûr de lui pour être persuadé qu'il est. Une superstar, un héros.
Exact. Mais ça c'est le plus dur. Mais le plus dur, c'est par rapport au délai, je vous dis, parce que le 10 octobre, j'ai mis le jugement de rappel. Si j'arrive avec rien devant le juge, j'aurais beau dire tout ce que je veux, j'aurais beau faire tout ce que je veux, éventuellement pas compte. Mais bon, ça, c'est encore un problème.
Louis, il va falloir qu'on se laisse, notre émission se termine.
Oui, bien sûr.
Promettez-moi de prendre vraiment soin de vous.
Oui, bien sûr, je fais tout pour.
Et vous savez ce que j'aimerais, c'est que dans quelques mois, vous m'appeliez pour me donner de vos nouvelles.
Oui, avec plaisir, pas de souci.
D'accord.
Je vous rappelle dans quelques mois, pas de souci.
Bon.
Pas de problème.
Comme ça, on verra quel beau chemin vous aurez parcouru d'ici là.
Ben, avec plaisir.
Je vous embrasse, Louis.
Merci, moi aussi.
Au revoir. La Libre Antenne, c'est fini pour ce soir. Un grand merci à vous tous qui êtes venus en toute sincérité nous ouvrir votre cœur, vos réflexions sur la vie également. Sachez que suite au coup de fil d'Annick tout à l'heure, il y a eu énormément de SMS et que nous avons mis Annick en contact avec beaucoup de gens qui sont prêts à lui parler et à la soutenir. Merci donc à vous pour vos nombreux SMS. Merci bien sûr à Ludmila pour ce magnifique témoignage en début d'émission. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h avec le même plaisir. Bonne nuit et à demain.